tu est Petrus. Voilà la nouvelle d'aujourd'hui, l'évangile, tu es Pierre. Alors il nous faut interroger ce passage tout à fait fondamental de la Bible, de l'Écriture sainte qui nous est donnée. Je vais le voir en deux temps. Tout d'abord, l'institution de Pierre par le Christ, et ensuite, les missions qu'il lui confie. D'abord, l'institution de Pierre, un engagement, l'institution proprement dite, et son pouvoir. Eh bien, l'engagement de Pierre, il se fait sur sa profession de foi. C'est intéressant pour nous de savoir que, dans l'Église, où que nous soyons, c'est d'abord nous qui entrons par notre profession de foi. C'est-à-dire, c'est moi qui m'avance et qui dis, voilà, je crois, comme on va le dire tout à l'heure, en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est ce qui me donne l'autorité pour entrer dans le sacrement, proprement dit, c'est-à-dire l'Eucharistie. Voilà. C'est ma profession de foi qui me fait entrer. Le Christ ne les a pas forcés, il les a même interrogés de manière un petit peu lointaine. D'abord, que disent les gens? Alors un prophète, etc. Beaucoup de gens que vous allez interroger autour de vous vont vous dire la même chose. Si vous leur demandez « Mais qui est Jésus ?» Ils vont vous dire « Oh, ben, un prophète. Peut-être un grand prophète. » Eh bien, ceux-là ne seront pas encore rentrés dans l'Église, même si s'ils ont raison, c'est un grand prophète, mais ils n'auront pas fait cette profession de foi que vient de faire Pierre, reconnaître que ce Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'était difficile à reconnaître, hein ? C'était difficile à reconnaître car on attendait un Messie, un envoyé de Dieu, mais lequel était peut-être plutôt vu comme quelqu'un qui allait restaurer la royauté en Israël, c'est même sûr, hein, s'occuper des affaires temporelles de ce monde. Et puis on savait, dans le monde juif, depuis toujours, que le Seigneur reviendrait à la fin des temps. Voilà pourquoi il était si difficile de faire cette vraie profession de foi. Tu es le Christ, celui qui est envoyé loin, celui qui a reçu l'onction, l'homme envoyé de Dieu, et tu es le Fils de Dieu. Voilà pourquoi c'est à partir de là que va naître l'Église du Christ, celle qui va reconnaître en lui le Sauveur, celui qui sauve, celui qui est Dieu lui-même. Ça, c'était la profession de foi. Il nous appartient, à vous comme à moi, d'entrer dans cette Église par cette profession de foi. Alors l'institution, elle va se faire de manière un peu solennelle par le Christ, qui va changer le nom de Pierre. Il s'appelle Simon, c'est son nom juif, Shimon, et il va lui donner un nom grec, Kephas. Alors le jeu de mots se poursuit en grec, en latin et en français, dans beaucoup de langues d'ailleurs, on l'a repris. Hein. Kephas, c'est à la fois la pierre et le nom. Petrus, Petrum, Petra, hein, tu es la pierre et c'est aussi ton nom, Pierre, et en français ça marche aussi, une pierre et tu es Pierre. Ce jeu de mots n'est pas anodin. Vous qui connaissez la Bible, immédiatement, comme tout bon juif qui aurait entendu ça, la pierre c'est qui? C'est le Christ lui-même. Ce rocher qui suivait les Hébreux au désert, c'est le Christ. Cette pierre angulaire sur laquelle il bâtira, sur laquelle on trébuche, c'est le Christ. Dire à Pierre qu'il est lui-même, dire à Simon qu'il est lui-même cette pierre, c'est lui donner son propre pouvoir. C'est lui donner de le représenter lui-même. C'est énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que vous le savez, le premier titre du pape, c'est « Vicaire de Jésus-Christ ». Hein ? Vicaire, ça veut dire gouverner, être à la place de celui qui m'a donné le pouvoir. C'est ça, un vicaire. Et donc, d'ailleurs, c'est, vous savez, le curé, il faut en parler puisque j'arrive, le curé qui exerce le pouvoir au nom de l'évêque, eh bien, en anglais, les Anglais ont peut-être l'esprit plus juridique que nous. Hein, si vous allez en Angleterre, ne vous trompez pas. Si vous appelez le vicaire, c'est l'inverse. Hein. Le vicaire, c'est le curé, et l'assistant priest, c'est le vicaire chez nous. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, celui qui est vicaire, il exerce le pouvoir. Il exerce le pouvoir au nom de celui qui lui a donné, il le représente. Voilà la mission de Pierre, hein. Voilà son pouvoir intime. Si vous lisez Lumen Gentium, je vous y encourage, la constitution dogmatique sur l'Église du Concile Vatican II, eh bien, au chapitre, au paragraphe 22, relisez-le parce qu'il parle du pape, au chapitre 22, il est dit, voilà, il est le vicaire du Christ sur terre, celui qui le rendra présent jusqu'à la fin des temps. Voilà pour l'institution de Pierre, cette institution sur laquelle nous sommes fondés, sur laquelle nous sommes construits. Il n'y a pas d'église catholique, il n'y a pas d'église universelle qui ne soit fondée sur cette promesse de Pierre, sur cette promesse faite à Pierre et évidemment à ses successeurs. Il serait illusoire de penser que le Christ, en Saint Jean, au chapitre 15, les a établis tous. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que cela s'arrêta à la mort des apôtres. Évidemment, immédiatement, vous le savez, cette église s'est poursuivie avec le départ de Judas. Tout de suite, les apôtres se sont réunis en disant « Il nous faut un douzième. » Le Christ en a établi 12, il nous faut trouver un 12e. Et on appela quelqu'un, un Matthias, pour remplacer Judas qui était manquant. Et voilà comment cela se passe depuis le début de l'Église. Eh bien, à chaque fois qu'un évêque fait défaut, à chaque fois qu'il meurt ou qu'il est trop âgé pour exercer sa charge, l'Église se réunit, réfléchit, propose au pape. Avec le temps, ça s'est un peu développé comme procédure, parce que l'Église s'est maintenant étendue sur le monde entier, et il ne suffit plus de se réunir ensemble dans la même pièce. Mais ça reste la même chose. Les évêques proposent, donnent des conseils, des avis, et puis le pape nomme le successeur du siège à pourvoir. C'était mon premier point, l'institution de Pierre comme volonté du Christ de se continuer dans le temps. Vous le savez, l'Église, elle est la continuation du Christ jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, par la célébration des sacrements, par sa présence auprès des plus pauvres, auprès de ceux qui ont à recevoir la foi, elle est cette continuation, cette présence même du Christ parmi nous. Alors quelles sont, voyons, c'est mon deuxième point, quelles sont les missions qui sont confiées à Pierre? Il y en a trois. Elles ne sont pas très originales, mais je vais vous les rappeler. Gouverner, enseigner, sanctifier. D'abord, gouverner. Il est donné à Pierre de gouverner. C'est sur toi que je vais fonder mon Église. On le voit tout au long de l'Évangile, Pierre prend la première place, se positionne en quelque sorte, et le Christ, parce qu'il s'avance, eh bien, va lui confier cette mission, gouverner l'Église. Voilà ce qu'il fait, il gouverne l'Église, il n'est pas seul, il est, on dit, primus inter pares, c'est-à-dire, il est le premier de ses pairs, il est le premier, il est l'évêque de Rome, vous vous souvenez peut-être, à l'élection du pape actuellement régnant, le pape François, la première chose qu'il est dite en arrivant sur le balcon de Saint-Pierre, c'est « prier pour l'évêque de Rome ». Voilà. Alors ça a déclenché beaucoup de « ah, il n'a pas dit qu'il était pape, il a dit qu'il était évêque de Rome ». Il a voulu signifier par là que son pouvoir de gouverner vient du fait qu'il est le successeur de Pierre, lequel a été établi à Rome et mort à Rome, et que depuis, même si quelquefois les papes se sont un peu éloignés de Rome, mais en gros, depuis 2000 ans, ils siègent à Rome. Et de toute façon, même quand ils en sont éloignés pour des raisons circonstancielles de guerre, en fait, eh bien, ils ont toujours considéré que leur siège était bien à Rome. Oui, le pape François nous a rappelé lors de sa venue qu'il était celui qui était venu pour gouverner l'Église. Son pouvoir est entier, universel, direct, plénier sur toute l'Église. S'il le voulait, eh bien, il viendrait là ce matin et puis il vous prêcherait. Il n'aurait pas à me demander la quelconque autorisation, vous imaginez bien, mais pas même au cardinal archevêque de Paris, pas même, voilà. Il a un pouvoir direct sur toute l'Église. Bien entendu, il ne peut pas l'exercer. Il l'exerce dans ce qu'on appelle la collégialité, c'est-à-dire le collège de tous les évêques, comme au début, comme avec les 12, l'ensemble des évêques du monde forment ce collège qui se réunit rarement parce que c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle un concile œcuménique. C'est-à-dire un concile, alors un concile, il peut y en avoir des particuliers, quelques évêques se rassemblent, et puis il peut y avoir des conciles dits œcuméniques, il y en a eu 22 pour l'instant dans l'histoire de l'Église. Le dernier nous est proche, d'aucuns l'ont connu, concile Vatican II, qui s'est réuni en 1962-1965. Ce collège de tous les évêques exerce le pouvoir de gouverner dans l'Église, le pouvoir de gouvernement avec le pape à sa tête. Il n'y a pas de concile sans le pape, il n'y a pas de pouvoir de gouverner sans le pape. Deuxième mission qui est confiée à Pierre, enseigner. Enseigner, c'est le Christ qui lui dira, avant de partir, « J'ai prié pour que ta foi ne chancelle pas ». Sa première mission, c'est le gouvernement, mais sa deuxième, c'est d'enseigner ses frères. Alors, non pas que les autres ne sachent pas, et qu'on peut très bien avoir des théologiens qui ont fait plus d'études que le pape sur un domaine particulier. Mais le pape a la charge de nous garder tous ensemble dans la même foi. Voilà pourquoi il lui est donné de dire, rarement en fait, parce qu'on parle toujours des dogmes de l'Église, mais il n'y en a pas beaucoup. On va le dire dans un instant, on va dire le credo, qui ramasse à peu près tout ce que nous avons à croire pour être de la même Église. Et finalement, il y a de nombreux domaines, la dormition de la Vierge Marie, l'efficacité de certaines prières, etc. Bon, c'est laissé à votre pratique spirituelle. Ce qui est fondamental, ce qui est le minimum, ce qui est la barrière qui nous garde tous ensemble, c'est le credo. Ce credo, on ne s'en rend pas compte, c'est phénoménal. Il n'y a qu'une Église. Là où on dit le credo, il y a l'Église du Christ. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a plus de 10 ans maintenant, j'étais au Bangladesh et j'avais invité un pasteur, une femme protestante. J'étais séminariste à l'époque et j'avais invité à boire le thé parce qu'elle était médecin et on travaillait. Enfin, l'Église catholique et les églises protestantes travaillaient ensemble pour diriger un hôpital. Et puis cette femme qui était écossaise me dit, mais alors vous êtes missionnaire? Non. Elle me dit, alors vous qu'est-ce que vous êtes? Je dis, je suis séminariste, je me prépare pour être prêtre, je suis du diocèse de Paris. Ah bon. Et alors, l'église qui est à Paris, elle a un contrat particulier avec l'église au Bangladesh? Non. Et puis j'ai compris ce qu'elle cherchait. Elle cherchait quel était mon... À quel titre j'étais là? Au nom de quoi? Et j'ai compris. Parce qu'elle était d'une église, elle était d'une communauté chrétienne qui passe des contrats, etc. Mais qui n'est pas une. Moi, j'étais séminariste partout. Quand je suis prêtre, je suis allé au Bangladesh comme tous les ans, vous en parlerez souvent. Alors, je ne prends pas mon célébrette, vous savez, on a une petite carte de prêtre qui dit qu'on est prêtre. Et on peut célébrer la messe partout, entendre les confessions. On est partout le même. Et vous-même, où que vous voyagez dans le monde, vous êtes chez vous. Dans n'importe quelle église catholique du monde, vous êtes chez vous. Le pape, vous voyez, on voit toujours son pouvoir comme un pouvoir normatif, etc. Mais son premier pouvoir, c'est qu'il nous tient tous ensemble. Il nous tient unis dans une même foi. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale, qui n'est utilisé que extrêmement rarement, c'est quand tous les évêques du monde ont été interrogés sur une question de foi uniquement, une question de foi ou de morale, et que le pape se prononce solennellement, alors ça devient un dogme. Voilà, ça devient une vérité révélée. C'est assez rare, et les derniers papes n'ont pas usé de ce pouvoir, on n'en a pas besoin très souvent. Donc, il ne faut pas vous faire une image de... Voilà. Dernier pouvoir, dernière mission, et j'en finis par là, gouverner, enseigner, sanctifier, c'est celle qui lui remet ici. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous voyez que cette histoire de clés vient déjà de l'Ancien Testament. La clé de la maison de David, on a lu dans la première lecture. Cette clé pour entrer et sortir de l'Église, entrer et sortir du royaume des cieux. Voilà ce pouvoir qui lui remet, c'est-à-dire le pouvoir de pardonner. Tous les prêtres du monde pardonnent au nom du Christ parce qu'ils ont reçu ce pouvoir de leur évêque qui lui-même est uni au pape. Si je n'étais plus uni à mon évêque, si je désobéissais, si je refusais ses ordres, eh bien il me retirerait le pouvoir de confesser, tout simplement. Parce que ce pouvoir est le pouvoir le plus important que nous ayons. C'est le pouvoir, non pas de l'organisation extérieure, mais de l'intérieur, ce qu'on appelle le fort interne, c'est-à-dire ce que nous avons de plus précieux, notre âme. Voilà ce dernier pouvoir qu'il lui donne, avec cette bonne nouvelle, qu'il durera même dans l'éternité, qu'il durera même contre la mort, qu'il durera éternellement, c'est le pouvoir de vivre. Mon dernier mot de conclusion sera pour le dernier titre donné par Isaïe. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Ce trône, c'est justement celui à qui il a remis le pouvoir. Quand on a un pouvoir dans l'Église, ce n'est pas pour jouer au puissant, c'est tout l'inverse. Peut-être le savez-vous, de tous les titres du pape, vicaire du Christ, patriarche de l'Église latine, évêque de Rome, enfin il y a toute une suite. Le dernier et le plus beau, peut-être, c'est serviteur des serviteurs de Dieu. Le trône de la gloire de Dieu, c'est celui qui sert, celui sur lequel on s'assoit avec sécurité, celui sur lequel on peut s'appuyer, celui qui nous tient dans les bras du Christ lui-même. Amen.